Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
C'est un outil, c'est pas quelque chose qui va nous remplacer. Du moment que ça ne supprime pas des talents, du moment que ça n'enlève pas des expertises, c'est parfait.
L'idée, c'est de comprendre quel est mon besoin et comment je vais donner ce besoin à l'IA pour avoir un meilleur résultat.
L'IA, c'est pas une obligation, mais c'est une formidable opportunité. C'est une opportunité de gagner du temps, d'aussi augmenter sa productivité, d'améliorer aussi ses pistes créatives.
Actuellement, en 2025, pouvoir faire le travail d'une équipe de 5-10 personnes tout seul, surtout pour des indépendants, c'est exceptionnel en fait.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Je suis ravi de vous retrouver dans l'épisode 9 de la saison 3 du podcast des indépendants sur BFM Business. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, déjà plus de 100 000 écoutes depuis janvier, c'est énorme. Je suis ravi, donc merci. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'intelligence artificielle. Vous êtes peut-être comme moi, vous ne l'utilisez peut-être qu'à 1% pour corriger des textes ou faire des traductions. Sauf qu'à côté, je vois des indépendants qui l'utilisent au quotidien et ça les aide vraiment pour leur productivité et pour gagner plus d'argent. Si comme moi, vous vous dites qu'il faut vraiment vous y mettre, cet épisode est fait pour vous. Et pour en parler, comme à chaque fois, 4 super invités.
Jen Benamou, mieux connue sous le nom d'Estherium sur les réseaux, où plus de 600 000 personnes la suivent. Elle y parle d'intelligence artificielle, de technologie et de notre rapport au digital, avec un ton accessible et convivial. Professeure de marketing digital, elle travaille aussi dans une agence de pub à Paris. Deuxième invitée, Pauline Hébel. Elle rend l'IA générative simple et accessible avec du contenu connu sous le nom Les Prompts de Pauline. Elle accompagne aussi les entreprises à intégrer l'IA dans leur quotidien, en plus d'être l'auteur du livre « On peut presque tout demander à ChatGPT » aux éditions First. Troisième invité, Jérémy Guyot, cofondateur de Superproductif, formation IA connue et reconnue. Il est aussi l'auteur d'un livre du même nom, Superproductif, comment utiliser ChatGPT pour gagner du temps et générer du business. Pour finir, Emmanuel Donati, conférencier. Emmanuel démystifie l'IA et la rend compréhensible par tout le monde. En entreprise, il aide les codir et les dirigeants à repenser et à optimiser leur stratégie de l'ère de l'IA.
Bonjour à tous.
Bonjour Ludo.
Bonjour Ludo. Bonjour Ludo.
Première question pour commencer, pourquoi j'ai du mal à me mettre à l'intelligence artificielle comme beaucoup finalement, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler mais on passe pas vraiment à l'action. Est-ce que c'est un changement de mode de fonctionnement ? Pauline.
C'est sûr que ça induit une vraie manière de travailler qui est complètement différente de celle d'aujourd'hui. Et en fait, le poids des habitudes, il est quand même assez conséquent. Et ça prend quand même du temps de maîtriser ces outils, même si on nous vend du rêve en disant on va gagner du temps, etc. Il y a quand même, comme tout nouvel outil, un temps d'adaptation. Et je pense que le poids de l'habitude, il est là.
C'est vrai que c'est un mode de fonctionnement complètement différent. C'est des nouveaux réflexes, en fait.
C'est un nouveau réflexe. On est beaucoup être d'une génération, parfois Google, où on se dit, on pose deux mots-clés, on a le résultat. Et en fait, l'IA, ça ne s'utilise pas comme ça. En soi, ce n'est pas vraiment très compliqué. Juste, il y a quelques astuces pour bien l'utiliser.
Il faut trouver des usages, en fait.
Exactement.
Le but, ce n'est pas d'utiliser l'IA, c'est d'avoir des tâches, si tu veux, que tu dis, mais ces tâches-là, je ne sais pas les faire, ou bien j'ai envie de les faire mieux. Et donc, ah bah tiens, aujourd'hui, j'ai un nouvel outil à ma disposition, c'est l'IA. Donc, comment je peux l'utiliser pour faire ça ?
Donc, il faut d'abord identifier des tâches sur lesquelles on se dit on pourrait utiliser l'IA et pas penser autrement, en se disant il faut que j'utilise l'IA.
Ouais, c'est pas forcément une obligation, mais je pense que tu peux aussi insister sur le fait qu'il y a deux manières. Tu vois, il y a le temps et la valeur. Il y a le gain de productivité et le gain de valeur. Bah, du coup, le gain de productivité va être là pour juste gagner du temps, des choses que tu sais déjà faire, mais qui sont en gros parasites, et du coup, tu fais que gagner du temps. Et l'autre, c'est cette notion d'intelligence un peu augmentée, on en parlait tout à l'heure, sur le fait d'avoir un complément et avoir ce réservoir en fait, d'intelligence auquel on peut poser des questions en permanence et challenger nos propositions. Et du coup, on n'est pas forcément là sur du gain de temps, mais plus sur comment j'augmente mon niveau de réflexion, mes idées, je crée quelque chose de nouveau.
C'est une intelligence augmentée, Diane.
Oui, c'est une intelligence augmentée. C'est une intelligence qui te permet justement de faire des choses de façon plus rapide, plus processée. C'est pour ça aussi que c'est compliqué de l'intégrer aujourd'hui pour tout le monde, parce que justement, il y a des méthodes et la formation prend des fois plus de temps que de casser ces habitudes au quotidien qu'on avait déjà avant.
Tu mets le doigt précisément sur ce qui bloque, je pense, avec l'IA pour ceux qui ne s'y mettent pas encore. C'est que ça change complètement les habitudes et ça nécessite de se former. Pourtant, ce que tu m'as dit, Emmanuel, en préparant cette émission, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'IA, c'est finalement le système le plus simple qui soit, puisqu'on converse avec.
Exactement. Donc, en fait, si tu veux, auparavant, on avait des artifices pour dialoguer avec la technologie, qui étaient le clavier, la souris, les écrans. Et aujourd'hui, l'IA, elle va nous comprendre. Donc, c'est vrai qu'il y a, pour aller optimiser les demandes par rapport à l'IA, il y a des méthodes à avoir sur lesquelles mes confrères ici forment très bien, moi aussi. Mais c'est vrai que tu peux déjà te lancer simplement en dialoguant et en posant tes questions et en y allant petit à petit, pas à pas.
Et c'est là qu'il y a un nouveau réflexe. Moi, je suis en train de l'intégrer. C'est le réflexe de poser la question à ChatGPT. Et d'ailleurs, la fonction vocale, elle est quand même super parce que du coup, elle permet de poser la question encore plus facilement. On n'a même pas besoin de tapoter notre question.
C'est exactement ça. Donc, l'IA, en fait, elle a maintenant, la technologie revient vers toi pour te comprendre. C'est ça qui est beau, en fait.
Jérémy ?
Deux choses. La première chose, c'est sur le process, en fait, pour déléguer les tâches à l'IA. Et tu disais justement que tu n'en ressens pas le besoin dans le quotidien. Pour moi, il y a un premier process, c'est de se dire où est-ce qu'il y a des tâches à faible valeur ajoutée qui me prennent du temps et comment est-ce que je pourrais penser à les déléguer à l'IA. Donc, la première chose, c'est de définir ces tâches qui te prennent du temps, faible valeur ajoutée, chronophage.
Tâches auxquelles on s'est finalement habitué souvent. Donc là aussi, c'est un autre mode de fonctionnement, puisqu'en fait, on les a intégrés, on sait qu'elles nous saoulent et qu'on perd du temps, mais on s'est habitué, on a intégré quoi. Donc c'est la première chose, c'est de dire, OK, il y a des tâches qui me font perdre du temps, je les identifie.
Tu les identifies, et ensuite, la deuxième étape, c'est de poser par écrit, c'est là où la fonctionnalité vocale de ChatGPT, par exemple, ça va desservir en fait cette fonctionnalité vocale. Quand tu as identifié ces tâches, il faut te poser, te dire comment est-ce que idéalement l'IA va résoudre mon problème par rapport à ces tâches. Et quand tu le dis à l'oral, habituellement, tu ne vas pas mettre avec précision ta requête. Donc, idéalement, cette fonctionnalité vocale, c'est bien pour le bœuf bourguignon, comme tu disais tout à l'heure. Pour un travail qui est structuré, idéalement, se pose à l'écrit.
C'est ça un prompt, Pauline ?
Ben oui, il y a plusieurs étapes à respecter. Ce n'est pas deux mots-clés comme sur Google. Donc, ce qui est important, c'est de donner un maximum d'éléments. Parce que le piège, souvent, c'est que les personnes, elles pensent que l'IA, elle est dans leur tête. Et elles se disent, moi, je veux faire ça. Et souvent, moi, quand je regarde la question, je me dis, mais en fait, moi, j'ai plein de questions. C'est dans quel objectif ? Qu'est-ce qu'on veut ? Pour qui ? Quoi ? On s'exprime, on veut rencontrer, je sais pas, un client, on l'a déjà rencontré, on le tutoie, on le vouvoie. Et les gens, ils ne pensent pas à mettre assez d'éléments.
C'est parfois un peu chronophage, en fait, parce qu'il faut mettre tellement d'éléments de détail pour utiliser, exploiter au mieux l'IA qu'on se dit des fois, mais flemme, Emmanuel.
Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux itérer, tu peux très bien poser une question simple et itérer, dire « Ah, maintenant, je veux plutôt une réponse dans ce style-là, etc. » Donc, tu peux itérer. Tu peux aussi demander à l'intelligence artificielle de te poser les questions dont il a besoin pour préciser la tâche.
Pour identifier précisément ce qu'il faut lui donner, demander à ChatGPT ce dont il a besoin. Diane.
Et puis aussi, je trouve que finalement, faire un prompt, structurer complètement son idée qu'on voulait avoir de base, ça permet justement d'économiser du temps. En général, quand on se lance dans un projet ou même dans un mail, on se lance un petit peu à main levée et on ne sait même pas forcément le schéma de pensée qu'on a à la base. Alors que quand on commence à prompter, on structure notre idée complètement et on sait réellement à la fin de notre prompt ce que l'on veut. Donc, ce que l'IA va nous sortir va être quelque chose de parfait selon ce qu'on a déjà organisé. Donc moi, je trouve que ça nous fait gagner du temps au final, de mieux organiser. C'est une façon autre de penser, oui, mais c'est une façon intelligente de proposer à l'IA.
Mais je voudrais réagir là-dessus parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une façon autre. Si tu travailles avec des collaborateurs, tu dois aussi leur préciser ce que tu veux obtenir. Et
exactement.
Donc c'est exactement la même manière. Ouais. Si tu poses à un collaborateur, eh bien, écris-moi un post LinkedIn, tu ne donnes pas le sujet, tu ne donnes aucun contexte, tu auras un post LinkedIn lambda, tu ne seras peut-être pas du tout content. Mais non, je voulais un post sur ceci, sur cela.
Et
donc, c'est la même chose.
Et même au-delà de ça, la façon de structurer ton post LinkedIn, c'est-à-dire, il me faut une accroche de temps de ligne avec, dans un premier temps, ce type-là de réponse, puis par bullet point, ça. C'est hyper intéressant, justement, de structurer dans son prompt comme ça. Et c'est exactement comme tu le dis, comme ça, bien qu'on sûr. Parle aussi à un collaborateur.
Je trouve cet exemple génial, en fait, c'est transformer tout le monde en bon manager et passer un bon message à son équipe. Et là, dans son équipe, il y a une IA. Et je fais souvent l'image avec quand il y a un stagiaire qui arrive dans l'entreprise, qui sort de la meilleure école, n'importe quelle école, qui a toute la théorie dans sa tête, c'est l'IA en fait. Ce stagiaire sort de la meilleure école, il arrive en entreprise, il a toute la théorie, mais la pratique, il la connaît pas. Et c'est l'IA en fait. L'IA, elle a emmagasiné des milliards et des milliards de données, mais maintenant qu'elle a ces données, il faut qu'elle les mette en pratique. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir un bon prompt.
Et le prompt, de ce que j'en comprends, du coup, j'aime beaucoup ce début d'émission parce que vous êtes en train de me donner envie d'aller plus loin avec l'IA. Et franchement, il fallait le faire parce que j'ai un problème de déclic, en fait. Hein, vraiment, j'ai un usage très simple, je le disais, de l'IA et j'arrête pas de me dire, mets-toi-y, Ludo, parce que quand tu passes du temps à écrire un post LinkedIn, tu pourrais économiser beaucoup de temps et avoir des choses encore plus percutantes si tu t'y mettais. Et j'aime bien cette idée de dire, c'est une confrontation à la structuration de ton idée. C'est-à-dire, OK, en fait, il manque des infos, là, dans mon idée. Et donc, tu te confrontes à ça. Peut-être que c'est ça que j'aime pas, finalement. Et que du coup, on se dit, je vais m'en passer.
Oui, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Mais il ne faut pas non plus oublier que, comme tu me disais tout à l'heure, l'IA est là pour t'alléger de tâches que tu n'aimes pas faire en général dans ton boulot. L'IA est faite pour te rendre ton boulot beaucoup plus agréable. Donc en soi, si par exemple 40% de ton taf est quelque chose que tu aimes vraiment, libère les 60% avec de l'IA. Si par exemple le post LinkedIn, tu aimes l'écrire de base et que c'est quelque chose qui te passionne, d'écrire la rédaction, ça te plaît, ne le délègue pas à l'IA. les mails, délègue-les si tu n'aimes pas ça. Le principe pour moi, c'est de l'utiliser intelligemment et de se dire, bah, en fait, je vais prendre cet outil-là pour me rendre ma vie encore plus cool.
Et pour se concentrer sur ce sur quoi on est animé. Alors, on parle des posts LinkedIn, on parle de la gestion des emails. Concrètement, on peut avoir quoi comme usage de l'IA pour se faciliter son quotidien d'indépendant, augmenter sa productivité et son chiffre d'affaires, Pauline?
Plein de choses. À vrai dire, on peut l'utiliser vraiment pour beaucoup de trucs. Il y a déjà toute la création de contenu. Je pense que quand on est indépendant, on a besoin d'aller chercher des clients, donc de la prospection, chercher des informations sur sa cible, rédiger potentiellement du contenu sur soi, sur ses produits, sur ses services, donc ses articles de blog aussi beaucoup. Clairement, on peut aller 4 fois plus vite que ce qu'on fait aussi naturellement. Aller chercher des informations aussi sur Internet avec des sources. Tout ça, en fait, tout ce travail d'analyse, bah déjà, on peut gagner vraiment beaucoup de temps. Après, il y a aussi des trucs vraiment très utiles sur le compte-rendu de la réunion, quoi, en fait, tout simplement, parce qu'on vient prendre en photo ses notes manuscrites, on les digitalise franchement en un clic. Enfin, on sort d'une réunion avec un client, on rejoint, je sais pas, le métro ou sa voiture. On se dit, au fait, j'ai pensé à 2-3 idées, mets-les-moi en forme avec ces instructions. Bam, on arrive chez soi, la conversation, elle est synchronisée.
C'est vraiment des nouveaux réflexes.
C'est un nouveau réflexe, mais en fait, je pense que quand on l'utilise aussi, même pour sa vie, même perso, et qu'on commence par des petites choses du quotidien, ça devient une habitude progressivement, mais il ne faut juste pas se dire, je vais l'utiliser pour tout de suite. Il faut y aller étape par étape, en fait.
Moi, quand je fais un entretien découverte avec un prospect, c'est un entretien en général qui dure une demi-heure, qui est en visio, et que j'enregistre, en fait, avec un outil IA. Et à la fin de la réunion, j'ai la retranscription, je prends la retranscription, je la balance dans Claude, qui est un modèle d'intelligence artificielle, et à qui j'ai appris à faire mes propositions commerciales. Et en 2 minutes, j'ai ma proposition commerciale qui est prête, je la relis,
j'avoue,
je l'envoie directement au client.
Là, vous me donnez vraiment envie, par contre. Hein. Il faut arrêter, parce que si on monte encore en intensité, je vais me jeter sur une IA. Non, mais c'est vrai que c'est très fort, parce que faire les devis, etc., ça prend un temps de dingue.
Et c'est nickel, parce que comme l'IA a écouté tout ce qui s'était passé, elle te donne le contexte, les attendus, elle te fait même le programme de la journée, comme tu l'as discuté avec le client, en fait.
Le gain de temps est dingue. Il y a une autre pratique, un autre usage de l'IA que j'ai trouvé intéressant dernièrement, que j'ai entendu, c'est avoir un plan d'action. On a envie d'atteindre un objectif, on se donne 5 ans et on va définir un plan d'action, Diane.
Ouais, c'est devenu une trend, ça, sur les réseaux, de demander à ChatGPT ou à Mistral, si tu veux, comme ça on reste sur la... Ouais.
De demander... Franco-français.
Exactement, de demander à une IA, justement, un plan d'action sur 5 ans pour arriver à un rêve ou en tout cas un objectif précis dans sa vie. Et donc là, ça sortait souvent... un plan parfait avec justement les tâches à faire au quotidien, les points importants sur lesquels on devrait vraiment travailler selon toutes les discussions qu'on avait eues déjà auparavant, par rapport aux biais un peu compliqués qu'on avait déjà et que l'IA avait remarqué de nous. Je suis d'accord hein, sur le fait de faire un plan d'action sur 5 ans. La vérité, c'est que l'IA va certainement te sortir quelque chose de très intéressant. Derrière, il y a quand même l'homme qui est certainement faillible entièrement et qui a certainement une flemmardise aiguë interne de temps en temps. Tous ces biais-là peuvent ne pas faire que le plan s'accomplisse totalement. Mais oui. En tout cas, c'est très intéressant de voir au moins cette vision-là de l'IA. Ça, c'est sûr.
Ça c'est clair. Aider. Et quand on a beaucoup d'ambition dans la vie, tout est question de stratégie. Donc rien que d'être dans cette démarche-là et d'avoir un plan d'action, c'est déjà énorme.
Oui, c'est déjà énorme.
Finalement, j'ai l'impression que l'IA, il faut la mettre absolument partout maintenant. Ceux qui ne le font pas, finalement, sont un peu à côté de la plaque, quoi. Jérémy.
C'est évident qu'à moyen terme, long terme, les personnes qui ne mettent pas l'IA dans leur... surtout les indépendants, on est au podcast des indépendants. Un indépendant qui travaille dans le digital, s'il n'utilise pas l'IA, en fait, c'est une énorme épine qu'il a dans le pied. Enfin, il se coupe le pied. Pourquoi ? Parce qu'il peut aller plus vite et faire le même travail avec la même qualité et en meilleure quantité.
J'entends. Mais ça veut aussi dire, on l'a dit, qu'il faut savoir quand même prendre le temps de se former, de s'approprier les outils. Donc pour récapituler, pour que ce soit bien clair pour les auditeurs, je définis les tâches qui sont chronophages et sur lesquelles j'aimerais être aidé. Ensuite, je fais quoi ? Je définis les outils ou je me forme
Moi, je dirais je teste. Oui. En fait, je pense que globalement, il y a quand même la chance aujourd'hui que toutes les IA du marché soient en version gratuite. Certes, limitée dans le temps, mais globalement, on a la possibilité de tester ce qu'on veut. Donc en fait, moi, je dirais, on teste d'abord. L'usage, il vient aussi parce qu'on l'utilise. Bien sûr, se former, ça permet de gagner du temps, mais il n'y a pas que des formations classiques. Il y a des livres, il y a des podcasts, il y a des tutos sur les réseaux. Il y a plein de manières de se former aujourd'hui. Et en fait, après, il faut le mettre en pratique. Parce que regarder du contenu, c'est bien, mais il faut vraiment le tester, mettre en application dans son quotidien.
Il faut y consacrer du temps.
Tu as aussi des applications en fait, d'intelligence artificielle qui te permettent d'aller sur plusieurs modèles. Donc, par exemple, ou BlueJetPT te permettent de choisir différents modèles. Donc, de tester un modèle, un autre modèle.
C'est quoi les modèles? C'est
Un modèle d'IA, c'est ChatGPT, par exemple.
Oui.
ChatGPT, c'est un modèle. Claude est un autre modèle. Mistral est un autre modèle.
Oui, okay.
DeepSeek, etc. Donc, tu as ça. Et tu as aussi des outils de comparaison.
Oui, chaque IA a un peu sa sensibilité, etc. Plus littéraire ou plus mathématique. Je caricature, Diane.
Non, c'est vrai.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et même sur la génération de vidéos ou d'images, tu le vois très, très bien. Si tu mets exactement le même prompt, tu peux avoir des choses totalement différentes selon l'IA. Oui, il faut savoir l'appréhender, le maîtriser. Après, de là à dire que... il faut connaître tout de l'IA absolument et l'intégrer de partout dans sa vie en tant qu'indépendant. Je pense que là, il faut doser un petit peu. Ce n'est pas parce que une IA de génération de vidéos existe qu'on doit forcément la maîtriser. Il faut savoir que ça existe. Il faut pas se faire avoir par exemple des prestataires qui vous vendraient des vidéos où on ressent qu'il y a de l'IA derrière. Mais par contre, savoir le maîtriser, pas forcément à ce moment-là. Utiliser l'IA là où c'est intéressant pour vous dans votre job.
Oui, et d'ailleurs sur ton compte Instagram, tu fais des vidéos très ciblées sur des outils très particuliers, ouais, en fonction des besoins, très définis. Mm-hmm. Et je pense que c'est aussi l'une des clés, c'est de se dire, je vais pas essayer de m'inscrire partout parce qu'il y a maintenant des outils pour à base d'IA, il y a que ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu noyé par l'information et par les solutions.
Bah, ça c'est sûr, et puis même avant on se plaignait du fait que un abonnement Netflix plus Disney plus Canal plus, ça devenait un peu beaucoup, plus la salle de sport, ça devenait encore plus gros. Bah là, si on commence à avoir ChatGPT, FreePic, un Runway, un Cloud,
on se sort pas.
La facture à la fin ressemble à un loyer, donc non.
Il faut cibler, et surtout qu'on peut tout simplement faire avec un ChatGPT ou un Mistral, finalement, Pauline.
Déjà, pour démarrer, je pense que c'est pas mal. Ça permet déjà de tester la logique de conversation, comment on utilise l'IA. Et on n'est pas obligé d'utiliser toutes les IA de génération d'images qui sont peut-être plus compliquées aussi. Et encore que maintenant, tout devient beaucoup plus simple. Et également, le modèle, il comprend aussi de quoi on parle. Il nous pose des questions aussi. Donc, il nous aide à appréhender cette nouvelle manière de l'utiliser. Mais je pense qu'il y a plein d'outils déjà à disposition. Et on en choisit un, on teste deux en comparaison. Et après, seulement, on peut dans une utilisation plus intensive.
Parce que toi, avec les prompts de Pauline, finalement, tu nous donnes beaucoup de solutions, rien qu'en promptant.
Oui, en fait, l'idée, c'est de comprendre quel est mon besoin et comment je vais donner ce besoin à l'IA pour avoir un meilleur résultat. Parce que finalement, on parle de ça, c'est comment j'ai un résultat qui me satisfasse. Est-ce que je suis pas content du résultat ? Et bien en fait, c'est-à-dire que j'ai pas bien donné mes instructions. J'ai un résultat qui est générique, j'ai donné une question qui était ultra générique. Donc vraiment, il y a cette notion d'apprendre à prompter qui est intéressante.
Super importante, parce que combien de fois, moi j'ai eu des réponses de ChatGPT, je me dis c'est pas possible, mais mon neveu de 10 ans aurait fait mieux.
Désolé, mais ta réponse n'était pas bien formulée du coup.
Oui, enfin,
ta question
n'était
pas bien formulée.
C'est exactement ça. Et après, ouais, c'est vrai que ça prend du temps du coup de bien formuler. C'est ce qu'on a dit en début d'émission, mais il faut accepter ce temps, il faut aussi se former. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de se former ? Il y a un truc que je ne comprends pas. On nous dit que c'est conversationnel, donc ça veut dire qu'on peut converser avec cette IA, donc il n'y a pas forcément besoin de se former. C'est ce que tu me disais d'ailleurs, Emmanuel.
Alors, tu as deux possibilités. Soit tu y vas par toi-même, tu peux t'auto-former, en fait, tu vas apprendre, tu vas voir que tiens, la réponse, elle n'est pas terrible, tiens, peut-être que je devrais essayer ça, et tu vas apprendre par toi-même, par itération, en fait, comme je dis. Moi, je travaille beaucoup par itération, ou alors tu vas aller vraiment vers du prompt qui est un peu plus professionnel, mais tu n'es pas obligé, en fait. Il y a une chose que j'aime pas tellement, c'est l'obligation. T'es pas obligé d'aller vraiment vers une direction particulière. Mmh. Mais si tu veux accélérer, effectivement, si tu veux aller chercher des réponses qui seront plus pertinentes plus vite, tu vas aller plus vite en suivant une formation ou en ayant vraiment une belle formation ou un bon guide, en fait, au niveau du prompting. Mais c'est pas forcément obligatoire pour tes premiers pas. Tu peux y aller sans avoir vraiment de formation. Tu te lances et puis tu vois un petit peu ce que ça donne. Et quand tu sauras, tu vois, quand tu auras un petit peu détaillé ce que toi, tu as envie de faire avec l'intelligence artificielle, tu vas à ce moment-là aller dans une direction de quelqu'un qui va te proposer une formation pour optimiser tes prompts dans ce domaine-là.
Par exemple, si tu veux que tes entretiens se transforment en propositions commerciales sur mesure, sans avoir à travailler dessus, ce que tu nous disais
exactement
en début, où là, c'est vrai que ça peut aller très, très loin, finalement. Est-ce que ça remplace une assistante ?
Ça remplace certaines tâches d'une assistante. C'est un peu ça.
Oui.
Et derrière, c'est souvent ce que je dis, le côté... un peu fou et pas de côté de l'humain que moi j'aime pour avoir des idées ne pourra jamais être remplacé par une IA.
Cette partie créativité, dis ça pourra pas être remplacé, Diane.
Alors pour moi ça ne pourra pas être remplacé. C'est un très bon assistant, c'est un très bon outil pour faire des ping-pong d'idées, c'est un très bon outil pour éviter la page blanche, mais par contre pour créer quelque chose de d'un peu plus fou, d'un peu plus poussé en termes de créativité, je trouve qu'il n'y a rien mieux qu'une bonne discussion avec un humain un peu fou. L'IA n'est pas candide. L'IA ne peut pas regarder le soir une lanterne dans la nuit et se dire que tiens, ça pourrait être la lune. C'est impossible.
L'IA a tendance quand même à bien se nourrir de ce qu'on lui donne.
Oui, et elle peut imiter les émotions. Oui. Mais pour le coup, sur la créativité pure, je ne pense pas que l'IA
pourra
arriver...
Sur l'audace, par exemple.
Je pense que ça sera très difficile.
J'ai mal sur l'humour aussi, par exemple.
Oui, essayer de demander un rébut à une IA, c'est très compliqué.
J'ai testé, effectivement, c'est pas drôle. Et d'ailleurs, l'IA... Elle n'est pas drôle, l'IA.
Ouais. Elle n'est pas drôle.
Non, tu n'es pas drôle, l'IA. Hello. J'ai testé, du coup. Je suis tombé sur un post de Christelle de Foucault qui, pour le coup, est assez critique avec l'IA, qui nous dit « Non merci, pas d'IA pour moi. J'écris moi-même mes textes qui ne sont pas parfaits mais qui viennent du cœur. Je me bats contre le plagiat et l'IA est le plus gros plagieur de tous les temps. » Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration qui est un peu une déclaration anti-IA, en tout cas sur LinkedIn, parce que c'est sur LinkedIn qu'on utilise beaucoup l'IA pour faire ces posts. Pauline ?
Moi, je pense déjà qu'il faut connaître son ennemi. Je pense qu'il faut tester, voir quel est le potentiel. Je ne sais pas si ceux qui sont contre, en fait, véritablement ont testé le potentiel créatif, le fait de s'exprimer avec sa manière. On peut vraiment l'entraîner. Plus on va lui donner du feedback, plus on va se créer des conversations.
Non, mais d'accord, mais là, du coup, tu vas dans le sens de Christelle. C'est-à-dire que Christelle dit, en gros, je ne vais pas me faire remplacer par une IA. Moi, j'écris avec mon cœur et c'est spontané. Et c'est moi, profondément moi. Et avec l'IA, on n'a que des posts, finalement, qui ne sont plus humains sur LinkedIn.
Ouais, mais je pense qu'il faut aussi choisir ses batailles. On ne peut pas l'utiliser pour tout. Et que si on est à l'aise sur la création de posts, la création de contenu, la partie littéraire, on garde ça pour soi et on va confier à l'IA toutes les tâches qui sont vraiment parasites, celles avec lesquelles on est moins à l'aise et qu'on n'a pas envie de faire. Donc je pense qu'aussi, on n'a pas forcément intégré pour tout dans son quotidien.
Il y a une résistance à l'IA quand même quand on voit le post de Christelle.
Parce que tout simplement, les gens ont peur de perdre des talents. La seule bonne opinion, je pense, à avoir vis-à-vis de ça, c'est de remettre l'IA à sa place. C'est un outil, c'est pas quelque chose qui va nous remplacer. Du moment que ça ne supprime pas des talents, du moment que ça n'enlève pas des expertises, c'est parfait. Ça, c'est la façon bien de l'utiliser. Il y a malheureusement des métiers, oui, qui sont potentiellement en danger à cause de l'IA. Je pense aux comédiens voix, où justement, il y a une certaine bataille vis-à-vis de ça. Là, je le comprends. Mais pour tous les autres métiers, si on l'utilise bien, si on se positionne toujours au-dessus, si on la remet réellement à sa place, il n'y a aucun danger. Et l'opinion peut vite être tranquillisée.
Et qu'est-ce que vous diriez à un indépendant qui, aujourd'hui, n'a pas encore pris le sujet à bras-le-corps et utilise encore l'IA comme il utilise Google ? Comment est-ce qu'on peut convaincre ? Parce que moi, ce que j'aime dans le podcast des indépendants, c'est de créer des déclics. On n'est pas là pour donner des noms d'outils, etc., et faire une masterclass sur l'IA. On est là pour amener de la réflexion et dire, effectivement, il y a peut-être une... faut peut-être que je réfléchisse différemment et que j'y prenne du temps. Et là, vous m'avez donné vraiment envie. C'est-à-dire que je me dis, je vais me caler une demi-journée ou une journée la semaine prochaine pour prendre du temps sur ça, pour identifier les tâches, etc. Qu'est-ce que vous diriez à un indépendant encore réticent, Jérémy ?
Celui qui a la réticence, déjà, et pour prendre mon histoire et pourquoi je me suis mis à l'IA, à la base, j'avais une agence LinkedIn, donc spécialisée en prospection, publicité, publication. Et quand j'ai vu l'IA arriver, je me suis pas dit que ça allait me remplacer, mais je me suis dit que ça allait me faire gagner du temps pour avoir plus de temps pour moi.
Ouais.
Donc c'est ça en fait. Moi, ma démarche avec l'IA, c'est avoir plus de temps pour moi.
De lui donner du temps au départ pour gagner du temps après.
Moi, l'objectif de l'IA, c'est vraiment déléguer les tâches à l'IA que j'aime pas faire, comme disait très bien Diane. Et ensuite, le temps que j'ai, soit je travaille plus, soit je passe plus du temps en famille, avec des amis ou à faire du sport. Et c'est vraiment ça pour moi l'objectif de l'IA pour un indépendant, où un indépendant, il peut travailler de 7h du matin à minuit. Mais derrière, la vie de famille, l'équipe pro-perso n'est pas top. Et l'IA est arrivée là depuis quelques années, c'est génial parce que ça permet d'avoir une équipe et des assistants au quotidien.
Ça soulage. Ouais. Et d'ailleurs, on voit que ça va être un peu la tendance des assistants, c'est ça, avec l'IA ?
Des agents
IA.
Ouais. Ça, c'est encore un autre délire.
ça va être encore plus fou.
On va
entraîner clairement un assistant parce que là, pour l'instant, il faut encore parler à l'IA.
Ouais.
Mais là, ça va être indépendant, autonome. On va entraîner comme si on forme un stagiaire,
Jarvis.
Un assistant. Et derrière, il va faire le travail pour nous, il va faire la réflexion pour nous et il va nous rendre le rendu final complètement fait.
Faudra l'éduquer comme ChatGPT finalement.
Alors faudra lui donner des tâches au départ, mais après si on le connecte avec d'autres agents IA, on peut, je sais pas si tu connais Iron Man, mais on peut clairement créer notre Jarvis, quoi.
Okay.
Ça serait littéralement ça, c'est-à-dire il a déjà sa liste de tâches à faire le matin, il peut envoyer des mails à ta place, faut éviter qu'il y ait trop d'erreurs, mais voilà, ça peut aller très très loin, mais ça peut être génial.
En fait, un agent, c'est un outil d'intelligence artificielle qui peut réaliser des tâches. Mmh. Donc, ChatGPT ne peut pas réaliser des tâches, c'est juste un programme, tu vois. Un agent IA, c'est un ChatGPT qui a le pouvoir de réaliser des tâches. Par exemple, te commander un billet de train pour venir au podcast des indépendants.
Donc ça, on va encore plus se rapprocher finalement du collaborateur, de l'assistant humain, quoi.
Mais sans le remplacer, hein, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, sans le remplacer, parce qu'il y a quand même ce côté, évidemment, humain qui est important, aussi d'intuition, de libre arbitre. L'IA, elle va aller, il faudra toujours vérifier ce qu'elle va te dire, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une IA, au départ, c'est quand même un modèle de probabilité. Hein.
Oui, c'est des chiffres, hein, c'est des maths, ouais. C'est des calculs en termes d'émotions, c'est égal à zéro, quoi.
J'ai jamais vu un zéro qui pleurait ou un qui rigolait.
Moi non plus. Je voulais faire un petit tour du côté des outils, parce qu'il y a pas mal d'outils, et notamment sur l'écriture des prompts. Et notamment, il y a quoi comme outil, pas sur l'écriture des prompts, pardon, sur l'écriture des posts LinkedIn. Il y a des solutions qui sont développées pour ça. Je pense à Magic Post, par exemple, etc. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Est-ce que c'est bien d'aller sur des solutions ciblées pour un besoin vraiment défini?
En fait, il y a deux solutions. Soit on apprend à prompter, et on apprend, du coup, quand on veut faire un post LinkedIn, qu'est-ce qu'un bon post LinkedIn, quelle est la psychologie derrière le post LinkedIn, comment l'écrire, en fait, quel est le concept, et faut avoir l'expertise pour écrire un post LinkedIn.
Donc, Magic Post, en fait, c'est un prompt déjà configuré.
Ou, voilà, on passe sur Magic Post, qui est déjà tout pré-configuré, on n'a pas besoin de se former, mais derrière, on paye un service. C'est vraiment les deux, en fait. C'est soit on le fait soi-même, et on gère tout, mais on apprend, soit on passe directement avec Magic Post ou un autre, et derrière, on a le résultat, enfin, avec un outil bien. Et d'ailleurs,
perso, je suis moins fan, Diane, honnêtement. Je suis moins fan de ce type de service parce que justement, le fait de créer son GPT pour justement avoir des posts LinkedIn derrière,
c'est
ça veut dire qu'on a l'expertise de base pour faire un post LinkedIn, en fait. Ouais. Donc du coup, ça veut dire aussi qu'on peut avoir l'esprit critique pour le remanipuler juste après et avoir quelque chose d'un peu plus consistant au départ. Alors que si on passe par un outil comme ça, bah, là, on avoue que voilà, on a la flemme d'avoir l'expertise de base, on va là-dessus, ça part, et puis...
C'est ça le problème. Hein. Quand les personnes vont avec l'IA, elles n'arrivent pas... Les personnes qui ne sont pas expertes n'arrivent pas à voir si c'est un bon post LinkedIn ou un mauvais post LinkedIn avec Magic Post, comme tu dis. Tu ne sais pas, en fait, tu as le résultat, tu dis, bon, bah, c'est bien, j'ai payé mon service.
C'est sympa, il y a des emojis.
Donc c'est génial. génial pour les personnes qui n'ont pas besoin de se poser la question et qui veulent faire du contenu en masse. Mais pour une personne qui veut quand même garder la main sur le contenu et faut qu'elle se forme absolument.
C'est pour ça qu'on voit autant de posts sur LinkedIn de qualité médiocre, on va dire.
Je dirais qu'un post sur deux sur LinkedIn est écrit avec l'IA, voire même un peu plus. Et en fait, ça se voit quand c'est mal utilisé. Je trouve que le message, finalement, on est focus sur la manière dont ça a été écrit, alors qu'en fait, l'IA doit être un sort de chef d'orchestre. Nous, on apporte les idées et lui, il met en musique. Sauf que concrètement, quand on voit que ça a été écrit par l'IA, on peut s'arrêter là et en fait, finalement, on n'a plus trop envie de croire et d'adhérer au message qui est véhiculé. Donc, c'est vraiment dommage. Il faut vraiment prendre le temps de l'affiner, de lui apprendre à écrire comme soi, et surtout son esprit critique, en fait, challenger les propositions, pas s'arrêter à la première, lui demander comment il peut s'améliorer, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce qu'il se noterait, qu'est-ce qu'il changerait là-dedans, et voilà, et en fait l'utiliser en complément et jamais lui déléguer tout à 100%, c'est sûr.
Donc finalement, je pense que vous êtes tous à peu près d'accord avec Christelle de Foucault, parce que je pense que finalement c'est ça le message au fond, hein. C'est est-ce que tu as un regard aussi sur ton contenu, etc. Et je pense que ce qui est visé, c'est beaucoup effectivement les posts bullshit parce que complètement écrits à base d'intelligence artificielle. Ça va encore plus loin parce qu'on peut choisir le style en copiant d'autres créateurs, quoi.
Copier dans un prompt, copier un créateur, par exemple, c'est juste donner un exemple de rédaction. Et ça, c'est une technique qui est ultra puissante sur ChatGPT ou autre.
Ouais.
Ou Mistral.
Tu lui donnes, en fait, la base, quoi.
Tu donnes, en fait, un modèle.
Ouais, un modèle.
Et ça, c'est la chose la plus puissante. C'est donner un modèle à ChatGPT ou à n'importe quel modèle.
Ça, c'est dingue. Ouais. Ça va vous paraître un peu étrange, peut-être, ce que je vais vous dire, mais moi, j'ai eu l'impression, à un moment donné, j'ai testé comme ça, et j'ai eu l'impression de me perdre dans mon style d'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai testé en lui donnant des modèles différents. Mm-hmm. Je me suis dit, tiens, lui, il marche bien dans son style d'écriture, mais moi, j'ai un style auquel je suis hyper attaché. Mm-hmm. Et donc, j'ai essayé d'affiner. Et après, je me suis perdu dans mon style, en fait. Je sais pas, ça m'a créé beaucoup de confusion, en fait. Et ça, c'est peut-être pour ça que j'ai décroché, d'ailleurs.
Dans ce cas-là, il faudra vraiment repartir à zéro. Tu te crées ta base d'exemples en disant, voilà, les posts que j'aime bien, voir avec des exemples qui peuvent être différents sur des thématiques différentes. Okay. Et après, tu lui dis, tu t'inspires de ça pour écrire. Et là, tu rebriefes ton sujet, ton contexte, ton objectif, etc.
OK.
Ou tu prends, si tu as une base de données, en fait, de posts que toi-même tu as écrit, tu lui donnes cette base de données et tu lui dis, apprends mon style et imite mon style. Et moi, c'est ce que je fais.
Bien sûr. Ouais.
Alors, j'écris pas mes posts LinkedIn avec l'IA. Par contre, je m'en inspire et donc je choisis des sujets. Je demande à l'outil d'intelligence artificielle de me préparer un post et puis je le retravaille. mais je lui demande de le retravailler à ma sauce.
Je voudrais rebondir là-dessus parce que souvent, on se dit, l'IA, ça va servir à rédiger. Et du coup, c'est là où il y a un débat, c'est du copier-coller, finalement, je ne réfléchis plus, je l'utilise sans trop réfléchir. L'IA, il y a plein de manières de l'utiliser. On n'est pas obligé de rédiger un post LinkedIn, proposition commerciale et autres. On peut l'utiliser juste pour relire, éviter les fautes d'orthographe. Clairement, on ne peut plus faire de fautes d'orthographe avec l'IA aujourd'hui. On peut l'utiliser pour structurer ses idées avec, je ne sais pas, ça peut être un résumé d'un compte-rendu et juste, en fait, on a les 4-5 bullet points. On peut l'utiliser pour faire une phrase à partir d'eux. On peut l'utiliser pour éviter
les traductions aujourd'hui.
Les traductions, ça marche aussi bien que des outils comme DeepL, donc ça marche dans plus de 50 langues, donc c'est parfait.
Et les traductions, on connaît le niveau des traductions ou pas?
Elles sont très bonnes.
Elles sont très très bonnes. Ouais. Elles sont vraiment
très bonnes.
De fermer.
Ouais. Après, il y a des détails culturels qui sont toujours pas implantés. Ouais. C'est la base, quoi. C'est pour ça que Hello New World est devenu ce rêve bleu. Voilà, ça, l'IA peut pas le faire.
Ça, c'est des usages très concrets. Merci Pauline, parce que c'est vrai qu'il y a pas que les posts LinkedIn.
Pour un post LinkedIn, en fait, il y a plein de manières de le faire. On peut lui demander d'aller chercher une donnée avec un élément chiffré sur le web et du coup s'en servir pour créer son histoire autour. On peut juste lui permettre d'adopter un style, faire des recherches, restructurer les éléments ou juste challenger sa proposition ou juste la remettre en page si après on veut des emojis et que ça nous fait plaisir. Donc en fait, c'est pas forcément que rédiger, on peut l'utiliser pour comparer, pour traduire, pour voilà, extrapoler et juste nous aider à réfléchir en fait.
Et vous proposez tous les quatre du contenu pour se former, pour sensibiliser. On va faire un petit tour de table sur le type de contenu que vous proposez pour nos auditeurs parce qu'ils sont nombreux à nous écouter sur ce que vous proposez comme type de contenu. Diane.
Moi, je propose du contenu plus autour de l'IA créative, pour le coup. Donc, c'est plus...
Ouais, vous allez faire des images, des vidéos.
C'est plus pour, pour dédramatiser le destin des DA, des motion, des monteurs vidéo, des concepteurs, rédacteurs. C'est surtout pour eux, honnêtement, au départ. Et puis, je sais que ça peut intéresser aussi énormément de gens en termes de créativité parce que l'IA peut permettre justement d'explorer des recoins de son imagination et surtout de passer à l'action derrière assez facilement. C'est assez incroyable. Donc, du coup, je parle de ça. Et derrière, je sensibilise un maximum sur le fait que ces outils existent. Comme par exemple les deepfakes, les choses comme ça, parce que je suis convaincue que si on ne sait pas, bah, on peut se faire avoir dès le départ. Donc,
c'est sûr. Il y a des trucs qui sont un peu évidents, mais.
Pas forcément.
Bah, Poutine avec Macron.
Alors oui, mais sachez que, en général, les grands-parents, s'ils regardent ces vidéos-là, ils se disent que c'est du vrai. Ils ne se posent pas la question. Donc il y a énormément de gens qui ne savent pas que ça existe et que c'est qu'une technologie existe. Donc c'est important de au moins montrer que ça existe, non pas pour leur faire essayer ce type d'outil, mais au moins pour leur faire prendre conscience.
Voilà. Donc toi, Diane, c'est des courtes vidéos sur les réseaux. Hein.
Ouais.
Toi, Pauline, est-ce que tu proposes des formats plus longs?
Alors moi, il y a beaucoup de courtes vidéos sur les réseaux aussi, mais pour rendre l'IA simple et accessible et de vraiment dans le quotidien, se dire en fait, comment je peux l'utiliser de manière vraiment très très simple, que ce soit un peu de perso, mais aussi beaucoup de pro, pour bien démarrer en fait, et surtout comprendre de quoi on parle, parce que parfois ça peut faire peur, et la technologie elle évolue vite. Donc on se reconnecte le lendemain sur son Mistral, sur le chat GPT, on se dit, ah le bouton il est plus là, il est à gauche, ah il y a un nouveau truc, je suis perdu, et on peut se sentir vite dépassé. Donc l'idée c'est de dire, en fait, pas de panique, je te montre ce qu'il faut savoir. Et
c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire aussi qu'il faut savoir rassurer par rapport à l'IA.
Ouais, il faut rassurer, parce qu'en fait, c'est pas si compliqué. Juste, voilà, il y a des bonnes techniques et ça permet d'y aller progressivement. Et après, voilà, j'ai aussi écrit un livre sur l'IA et qui s'appelle « On peut presque tout demander à ChatGPT ».
Jérémy, moi, j'ai suivi une vidéo que tu proposais sur LinkedIn qui était un format long. On était sur du 10 minutes, je crois. Et c'était justement par rapport à ChatGPT. Donc toi, tu proposes aussi des contenus quand même très formateurs qui sont accessibles à tous. Pourquoi je vous pose ces questions-là? Parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire, je peux me diriger vers quoi? Pourquoi pas aller voir ce que proposent les invités du podcast des indépendants? Et c'est vrai qu'il y a déjà des contenus qui permettent de mettre le pied à l'étrier, comme avec toi, Jérémy, où c'est assez développé.
L'axe principal, c'est indépendants, auto-entrepreneurs, très petites entreprises qui ont besoin d'intégrer, enfin, qui ont envie d'intégrer l'IA dans leur business. Donc, sur plusieurs thématiques, marketing, vente, RH et LinkedIn.
Okay.
Donc, grosses quatre thématiques. Et comment est-ce qu'ils peuvent intégrer l'IA dans leur quotidien? Mais vraiment, axé pur business. Pour simplifier leur quotidien et avoir plus de temps derrière en famille.
Et là, il y a des contenus gratuits qui permettent de progresser et d'apprendre des choses sur l'IA. Emmanuel, c'est la même chose. Toi, tu proposes des contenus aussi?
Alors, j'anime surtout un live toutes les semaines hebdomadaires sur.
Je peux pas
le
dire.
Exactement. Ouais. Voilà où je parle des dernières actualités. Il y a des chroniques aussi sur plein d'aspects différents des IA, des démos, etc. Donc j'essaye de coller, hyper concret.
C'est très concret. Il nous reste 2 minutes pour conclure cette émission. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Ah ouais, je vais peut-être me mettre à l'IA ».
L'IA, c'est le meilleur moyen tout simplement de se faire une vie incroyable, de se libérer du temps, de pouvoir avoir des matins où on a envie de se réveiller, des soirs où on a envie de se coucher un peu plus tard parce qu'on a du temps
pour nous, pour s'épanouir. Toutes les tâches un peu nulles, on les délègue. Toutes les tâches que l'on aime et qui nous font du bien, on les garde. Voilà, l'IA, c'est tout ce qui peut nous permettre au final de vivre une vie incroyable.
Non, mais c'est super intéressant parce qu'on est sur un sujet de santé mentale. Je veux dire, les indépendants, ils sont sous l'eau.
Bah,
on est quand même en train de dire que si on intègre vraiment l'IA, on peut retrouver un équilibre de vie.
En fait, moi, je te dis, honnêtement, l'IA, je l'utilise non seulement pour tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire libérer les tâches que j'aime pas faire, mais il y a aussi une question de... Je suis une fille stressée, une fille qui n'arrive pas à s'organiser au quotidien, j'utilise l'IA. Je suis une fille qui a peur de la page blanche, j'utilise l'IA. Je suis une fille qui en général, se pose énormément de questions sur n'importe quel sujet, à n'importe quelle heure de la nuit et du jour. Eh ben, du coup, je vais pas déranger mes potes et je vais mettre ChatGPT avec la commande vocale et puis je vais lui parler. Et ça me fait du bien.
Ça donne confiance, du coup, l'IA ?
Je sais pas si ça donne confiance parce qu'au bout d'un moment, ça peut juste être se parler dans un miroir uniquement. Donc, ça va pas faire évoluer non plus notre pensée à un point gigantesque.
Non, mais pour passer à l'action.
Pour passer à l'action, ça peut aider. Il y a des gens qui programment ChatGPT uniquement pour leur donner des petites phrases de bonne journée tous les matins et de trucs d'empowerment. Donc, je suis nulle en sport. Et ben, il m'a fait un programme, par exemple. C'est des choses toutes bêtes et qu'on peut mettre au quotidien. C'est bien, en tout cas, pour la santé mentale dans certains aspects. Je dis bien, parce que des fois, ça peut aussi isoler, mais comme n'importe quelle chose prise en version extrême. Et c'est bien aussi pour se libérer l'esprit et du temps.
Voilà. Pauline, un dernier mot.
Je pense qu'il y a deux manières de voir l'apport de l'IA. Il y a le côté productivité. Je gagne vraiment du temps dans mes tâches du quotidien. Je délègue mes tâches fastidieuses. Mais il y a aussi l'apport de valeur. Et c'est vrai que sur la partie du temps, comme il faut quand même du temps pour apprendre à prompter sur l'IA, en fait, si je vais commencer à lui donner des tâches qui sont complexes que je vais faire une seule fois dans l'année, je vais me dire, il est où le gain de temps ? J'ai passé 4 heures à essayer de l'utiliser. Et en fait, mon gain de productivité, il est clairement pas là.
C'est ça le risque. Hein.
Donc, c'est clairement un risque. Donc, je pense qu'il faut l'utiliser. On va commencer par des tâches qui sont faciles à expliquer, des petites choses, en fait. Voilà. Et ensuite, se dire que ça peut être un assistant à qui on peut challenger nos propositions et le voir vraiment comme une aide pour augmenter la manière dont on travaille déjà. Et pas juste sur la partie productivité. C'est aussi, en fait, un dégager de la valeur parce qu'on va augmenter notre réflexion, la manière dont on réfléchit. Et après, pour le mettre en application de manière concrète, je pense qu'il faut aussi se dire que on commence une nouvelle tâche, on se dit « Ah, est-ce que l'IA peut m'aider ?» En général, la réponse est oui. Mais par contre, attention, il faut quand même être aussi hyper vigilant sur ses données à soi et aussi celles de ses clients. Il faut quand même aussi être responsable quand on utilise l'IA.
Jérémy, un dernier mot.
Pour moi, intégrer l'IA dans le business, c'est vraiment une concurrence déloyale, en fait. Et il faut l'utiliser. Actuellement, en 2025, pouvoir faire le travail d'une équipe de 5-10 personnes tout seul, surtout pour des indépendants, c'est exceptionnel, en fait. Et se former à intégrer l'IA dans son quotidien pour avoir plus de quantité, mais aussi plus de qualité, parce qu'on ne veut pas que de la quantité, sinon ça ne sert à rien, c'est un pouvoir qui est énorme. Et après, l'objectif, ça peut être de faire plus de chiffre d'affaires, ça peut être de passer plus de temps en famille, plus de temps entre amis, faire plus de sport, ne rien faire, mais il ne faut pas nier le fait que cet outil, l'IA, c'est ultra puissant.
Et il peut tout changer.
Et ça change tout. Personnellement, j'ai plein de tâches dans mon business qui sont automatisées. Si j'arrive à envoyer, je démarche 1000 personnes par email par jour, on envoie une newsletter à 80 000 personnes, j'ai des posts qui sont postés tous les jours.
Il faudrait pourtant, une équipe de 5 personnes.
Ouais, c'est ça. Et pourtant, je vais surfer, faire du kitesurf tous les jours et je fais le travail d'une équipe de 5 personnes.
C'est ce que Jérémy ne vit pas à Paris.
Moi, je suis très jaloux. Là.
Emmanuel, un dernier mot.
Pour rassurer, je voudrais dire aussi que l'IA, c'est pas une obligation, mais c'est une formidable opportunité. C'est une opportunité de gagner du temps, comme on l'a dit, d'aussi augmenter sa productivité, d'améliorer aussi ses pistes créatives et la productivité qu'on peut avoir. C'est vraiment, et à chacun de trouver aussi ses propres usages. Donc, chacun ne doit pas faire absolument la même chose que le voisin. C'est à chacun de trouver les tâches sur lesquelles il va trouver un intérêt, soit à gagner du temps, soit à trouver de nouvelles idées et de vraiment s'acculturer et s'approprier les usages de l'intelligence artificielle.
C'est important de dire effectivement que ce n'est pas une obligation. Mais pour le coup, si j'ai bien compris, c'est quand même stratégique. Et en tout cas, moi, vous m'avez convaincu de m'intéresser beaucoup plus à l'IA. Merci à tous les quatre d'avoir été dans ce 9e épisode du podcast des indépendants saison 3. On se retrouve, je vous rappelle, sur BFM Business et sur toutes les plateformes d'écoute un mercredi sur deux. À bientôt.
C'était le podcast des indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badeau et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.